Philos Amourons. Chaque semaine, je vous lis quelques chapitres de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes pour méditer sur ce qui nous bouleverse tous, l'amour. Roland Barthes a écrit en 77 son ouvrage sous une forme de dictionnaire dans lequel il décortique chacun des aspects du sentiment amoureux. Il s'appuie sur des romans, notamment Les souffrances du jeune Werther de Goethe et La recherche du temps perdu de Proust, mais aussi sur des philosophes, des psychologues et sur son propre vécu. Cette semaine, fou, gêne, gradiva, habit et identification. Fou. Le sujet amoureux est traversé par l'idée qu'il est ou devient fou. Je suis folle d'être amoureuse. Je ne le suis pas de pouvoir le dire, je dédouble mon image. Insensée à mes propres yeux, je connais mon délire. Simplement déraisonnable aux yeux d'autrui à qui je raconterai sagement ma folie. Consciente de cette folie, tenant discours sur elle. Werther rencontre un fou dans la montagne. En plein hiver, il veut cueillir des fleurs pour Charlotte qu'il a aimée. Cet homme, du temps qu'il était en cabanon, était heureux. Il ne savait plus rien de lui-même. Werther se reconnaît à moitié dans le fou aux fleurs, fou par passion comme lui, mais privé de tout accès au bonheur, supposé de l'inconscience, souffrant de rater même sa folie. Tout amoureux est fou, pense-t-on. Mais imagine-t-on un fou amoureux? Nullement. Je n'ai droit qu'à une folie pauvre, incomplète, métaphorique. L'amour me rend comme folle. Mais je ne communique pas avec la surnature. Il n'y a en moi aucun sacré. Ma folie, simple déraison, est plate, voire invisible. Au reste, totalement récupérée par la culture, elle ne fait pas peur. C'est pourtant dans l'état amoureux que certains sujets raisonnables devinent tout d'un coup que la folie est là, possible, toute proche. Une folie dans laquelle l'amour lui-même sombrerait. Depuis 100 ans, la folie littéraire est réputée consister en ceci : je est un autre. La folie est une expérience de dépersonnalisation. Pour moi, sujet amoureux, c'est tout le contraire. C'est de devenir un sujet, de ne pouvoir m'empêcher de l'être qui me rend fou. Je ne suis pas un autre, c'est ce que je constate avec effroi. Histoire zen. Un vieux moine est occupé en pleine chaleur à faire sécher des champignons. Pourquoi ne le faites-vous pas faire par d'autres ? Un autre n'est pas moi, et je ne suis pas un autre. Un autre ne peut faire l'expérience de mon action. Je dois faire mon expérience de faire sécher des champignons. Je suis indéfectiblement moi-même, c'est en cela que je suis folle parce que je consiste. Et fou, celui qui est pur de tout pouvoir. Quoi, il ne connaît aucune excitation de pouvoir, l'amoureux ? L'assujettissement est pourtant mon affaire. Assujetti, voulant assujettir, j'éprouve à ma manière l'envie de pouvoir, la libido dominandi. Ce que je ne dispose pas à l'égal des systèmes politiques d'un discours bien fait, c'est-à-dire fort, délié, articulé. Cependant, c'est là ma singularité, ma libido est absolument enfermée. Je n'habite aucun autre espace que le duel amoureux. Pas un atome de dehors, donc pas un atome de grégarité. Je suis folle. Non que je sois originale, ruse grossière de la conformité, mais parce que je suis coupée de toute socialité. Si les autres hommes sont toujours à des degrés divers les militants de quelque chose, je ne suis moi soldat de rien, pas même de ma propre folie. Je ne socialise pas, comme on dit de tel autre qu'il ne symbolise pas. Peut-être reconnaître ici la coupure très singulière qui disjoint dans l'amoureux la volonté de puissance, dont est marquée la qualité de sa force, de la volonté de pouvoir dont elle est exempte. Gêne. Scène à plusieurs dans laquelle l'implicite du rapport amoureux agit comme une contrainte et suscite un embarras collectif qui n'est pas dit. Werther est en train de faire une scène à Charlotte. C'est peu avant son suicide. Mais la scène tourne court par l'arrivée d'Albert. On se tait et l'on se promène, l'air embarrassé, de long en large dans la chambre. On essaye d'insignifiants sujets de conversation qui tombent l'un après l'autre. La situation est chargée. De quoi ? De ce que chacun est perçu par les deux autres dans son rôle, de mari, d'amant, d'enjeu, sans qu'il puisse être tenu compte de ce rôle dans la conversation. Ce qui est lourd, c'est le savoir silencieux. Je sais que tu sais que je sais. Telle est la formule générale de la gêne. Pudeur blanche, glacée, qui prend pour un signe l'insignifiance des propos. Paradoxe, le non-dit comme symptôme du conscient. Le hasard réunit tout d'un coup dans ce café quelques amis, tout un paquet d'affects. La situation est chargée. Bien que j'y sois engagée et même en souffre, je la vis comme une scène. Un tableau bien dessiné, bien composé, quelque chose comme un greuze, un peu pervers. C'est bourré de sens. Je les lis. Je les suis dans toute leur finesse. J'observe. Je les chiffre. Je jouis d'un texte qui éclate de lisibilité par cela même qu'il ne dit pas. Je ne fais que voir ce qui se parle, comme au cinéma muet. Il se produit en moi, contradiction dans les termes, une sorte de fascination alerte. Je suis rivée à la scène et cependant très éveillée. Mon attention fait partie de ce qui se joue. La scène est sans extérieur et pourtant je la lis. Il n'y a pas de rampe, c'est un théâtre extrême. D'où le malaise ou, pour certains pervers, la jouissance.
Thank you. disobeying. Mm-hmm.
Gradiva. Ce nom, emprunté au livre de Jensen, analysé par Freud, désigne l'image de l'être aimé pour autant qu'il accepte d'entrer un peu dans le délire du sujet amoureux afin de l'aider à s'en sortir. Le héros de la Gradiva est un amoureux excessif. Il hallucine ce que d'autres ne feraient qu'évoquer. L'antique Gradiva, figure de celle qu'il aime sans le savoir, est perçue comme une personne réelle. C'est là son délire. Elle, pour l'en tirer doucement, se conforme d'abord à ce délire, elle y entre un peu, consent à jouer le rôle de la Gradiva, à ne pas casser tout de suite l'illusion et à ne pas réveiller brusquement le rêveur, à rapprocher insensiblement le mythe et la réalité, moyennant quoi l'expérience amoureuse prend un peu la même fonction qu'une cure analytique. La Gradiva est une figure de salut, d'issue heureuse, une Euménide, une bienveillante. Mais de même que les Euménides ne sont que d'anciennes Érinies, déesses du harcèlement, de même il existe dans le champ amoureux une mauvaise Gradiva. L'être aimé, ne fût-ce qu'inconsciemment et pour des motifs qui peuvent procéder de son propre profit névrotique, semble alors avoir à cœur de m'enfoncer dans mon délire, d'entretenir et d'irriter la blessure amoureuse. Tels ces parents de schizophrènes qui, dit-on, ne cessent de provoquer ou d'aggraver la folie de leur enfant par des menues interventions conflictuelles. L'autre essaye de me rendre fou. Par exemple, l'autre s'emploie à me mettre en contradiction avec moi-même, ce qui a pour effet de paralyser en moi tout langage. Ou encore, il fait alterner des actes de séduction et de frustration. C'est là l'ordinaire de la relation amoureuse. Il passe sans prévenir d'un régime à l'autre, de la tendresse intime, complice à la froideur, au silence, au congé. Ou enfin, d'une façon encore plus ténue, mais non moins blessante, il s'ingénie à casser la conversation, soit en imposant de passer brusquement d'un sujet grave, qui m'importe, à un sujet futile, soit en s'intéressant visiblement, pendant que je parle, à autre chose que ce que je dis. Bref, l'autre ne cesse de me ramener à mon impasse. Je ne peux ni sortir de cette impasse, ni m'y reposer. Tel le fameux cardinal Balu enfermé dans une cage où il ne pouvait ni se tenir debout, ni s'allonger. Comment l'être qui m'a capturé, pris dans le filet, peut-il me décapturer, desserrer les mailles ? Par la délicatesse. Le petit Martin Freud, ayant été humilié pendant une séance de patinage, son père l'écoute, lui parle et le dénoue, comme s'il libérait un animal prisonnier des filets d'un braconnier. Très tendrement, il enlevait l'une après l'autre les mailles qui retenaient la petite bête, ne manifestant aucune hâte et résistant sans impatience aux soubresauts que faisait l'animal pour se libérer, jusqu'à ce qu'il les ait toutes démêlées et que la bête puisse s'enfuir en oubliant tout de cette aventure. On dira à l'amoureux ou à Freud, il était facile à la fausse Gradiva d'entrer un peu dans le délire de son amoureux, puisqu'elle aussi elle l'aimait. Ou plutôt, expliquez-nous cette contradiction. D'une part, Zoé veut Norbert, elle veut s'unir à lui. Elle en est amoureuse. Et d'autre part, chose exorbitante pour un sujet amoureux, elle garde la maîtrise de son sentiment. Elle ne délire pas, puisqu'elle est capable de feindre. Comment donc Zoé peut-elle à la fois aimer et être amoureuse ? Ces deux projets ne sont-ils pas réputés différents, l'un noble et l'autre morbide ? Aimer et être amoureux ont des rapports difficiles. Car s'il est vrai qu'être amoureux ne ressemble à rien d'autre, une goutte d'être amoureux diluée dans une vague relation amicale la colore vivement, la fait incomparable, je sais tout de suite que dans mon rapport à X, si prudemment que je me retienne, il y a de l'être amoureux. Il est vrai aussi que dans l'être amoureux, il y a de l'aimer, je veux saisir farouchement, mais aussi je sais donner activement. Qui peut donc réussir cette dialectique? Qui, sinon la femme, celle qui ne se dirige vers aucun objet, seulement vers le don? Si donc tel amoureux parvient à aimer, c'est dans la mesure même où il se féminise, rejoint la classe des grandes amoureuses, des suffisamment bonnes. Voilà pourquoi, peut-être, c'est Norbert qui délire et c'est Zoé qui aime. Tout affect suscité ou entretenu par le vêtement que le sujet a porté lors de la rencontre amoureuse ou porte dans l'intention de séduire l'objet aimé. En vue d'un rendez-vous qui m'exalte, je fais soigneusement ma toilette. Ce mot « toilette » n'a pas que des sens gracieux. Sans parler de l'usage scatologique, il désigne aussi les apprêts auxquels on soumet le condamné à mort avant de le conduire à l'échafaud. Ou encore la membrane graisseuse et claire dont on se sert dans la boucherie ou la charcuterie pour couvrir certaines pièces. C'est comme si, au bout de toute toilette, inscrit dans l'excitation qu'elle suscite, il y avait toujours le corps tué, embaumé, vernissé, enjolivé à la façon d'une victime. En m'habillant, je pars ce qui du désir va être raté. Ainsi parle Socrate. Je me suis donc paré afin d'être beau pour aller auprès d'un garçon beau. Je dois ressembler à qui j'aime. Je postule, et c'est cela qui me fait jouir, une conformité d'essence entre l'autre et moi. Image, imitation. Je fais le plus de choses possibles comme l'autre. Je veux être l'autre. Je veux qu'il soit moi. Comme si nous étions unis, enfermés dans le même sac de peau. Le vêtement n'étant que l'enveloppe lisse de cette matière coalescente dont est fait mon imaginaire amoureux. Werther encore. Il m'en a fort coûté de me résoudre enfin à ne plus mettre le très simple habit bleu que je portais quand je dansais avec Lotte pour la première fois. Mais il avait fini par être tout passé. Je m'en suis d'ailleurs fait faire un absolument semblable. C'est dans ce vêtement, habit bleu et gilet jaune, que Werther veut être enterré et qu'on le retrouve en train de mourir dans sa chambre. Chaque fois qu'il met ce vêtement, dans lequel il mourra, Werther se travestit. En quoi? En amoureux ravi. Il recrée magiquement l'épisode du ravissement, ce moment où il s'est trouvé sidéré par l'image. Ce vêtement bleu l'enferme si fort que le monde alentour s'abolit, rien que nous deux. Par lui, Werther se forme un corps d'enfant, où phallus et mère sont joints, sans rien au-delà. Ce costume pervers a été porté dans toute l'Europe par les fans du roman, sous le nom de costume à la Werther. Identification. Le sujet s'identifie douloureusement à n'importe quelle personne ou n'importe quel personnage qui occupe dans la structure amoureuse la même position que lui. Werther s'identifie à tout amoureux perdu. Il est le fou qui aime Charlotte et s'en va cueillir des fleurs en plein hiver. Il est ce jeune valet amoureux d'une veuve qui vient de tuer son rival, pour lequel il veut intercéder, mais qu'il ne peut sauver de l'arrestation. Rien ne peut te sauver, malheureux. Je vois bien que rien ne peut nous sauver. L'identification ne fait pas acceptation de psychologie. Elle est une pure opération structurale. Je suis celui qui a la même place que moi. Tout réseau amoureux, je le dévore du regard et j'y repère la place qui serait la mienne si j'en faisais partie. Je perçois non des analogies mais des homologies. Je constate par exemple que je suis à X ce que Y est à Z. Tout ce qu'on me dit de Y m'atteint au plus vif. Bien que sa personne me soit indifférente, inconnue même. Je suis pris dans un miroir qui se déplace, qui me capte partout où il y a une structure duelle. Il y a pire. Il peut se trouver que d'un autre côté je sois aimée de qui je n'aime pas. Or, loin de m'aider, par la gratification qu'elle implique ou le dérivatif qu'elle pourrait constituer, cette situation m'est douloureuse. Je me vois dans l'autre qui aime sans être aimée. Je retrouve en lui les gestes mêmes de mon malheur. Mais ce malheur, c'est moi. cette fois-ci, qui en suis l'agent actif. Je m'éprouve à la fois comme victime et comme bourreau. Par cette homologie, il marche, se vend le roman d'amour. X est plus ou moins désiré, flatté, par d'autres que par moi. Je viens donc à leur place. Werther est à la même place que Henrik, le fou aux fleurs qui a aimé Charlotte à la folie. Or, ce rapport de structure, des points sont disposés dans un certain ordre autour d'un point, j'en viens très vite à l'imaginer en termes de personnalité. Puisque Henrik et moi occupons le même lieu, ce n'est plus seulement à la place de Henrik que je m'identifie, c'est aussi à son image. Un délire me prend. Je suis Henrik. Cette identification généralisée, étendue à tout ce qui entoure l'autre et bénéficie de lui comme moi, mais deux fois douloureuse, elle me dévalorise à mes propres yeux. Je me retrouve réduit à telle personnalité. Mais aussi elle dévalorise mon autre qui devient l'enjeu inerte, ballotté d'un cercle de concurrents. Chacun, identique aux autres, semble crier « À moi ! À moi !» On dirait une troupe d'enfants en train de se disputer la balle, le chiffon, n'importe quel objet. Bref, le fétiche qu'on leur a lancé, à qui l'attrapera ? Ce jeu s'appelait la gribouillette. La structure ne fait pas acceptation de personne, elle est donc terrible comme une bureaucratie. On ne peut la supplier, lui dire « Voyez comme je suis mieux que H ». Inexorable, elle répond « Vous êtes à la même place, donc vous êtes H ». Nul ne peut plaider contre la structure. Werther s'identifie au fou, au valet. Je puis, moi, lecteur, m'identifier à Werther. Historiquement, des milliers de sujets l'ont fait, souffrant, se suicidant, s'habillant, se parfumant, écrivant comme s'ils étaient Werther. Ariette, complainte, bonbonnière, boucle de ceinture, éventail, eau de toilette à la Werther. Une longue chaîne d'équivalence lie tous les amoureux du monde. Dans la théorie de la littérature, la projection du lecteur dans le personnage, aujourd'hui n'a plus cours. Elle est néanmoins le registre propre des lectures imaginaires. Lisant un roman d'amour, c'est peu dire que je me projette. Je colle à l'image de l'amoureux, de l'amoureuse, enfermée avec cette image dans la clôture même du livre. Chacun sait que ces romans se lisent en état de sécession, de réclusion, d'absence et de volupté, au cabinet. C'était Philos Amouron, lecture de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Cette semaine, nous avons écouté les chapitres Fou, Gêne, Gradiva, Habit et Identification. La chanson était Oh Mary de Philo, lecture de Jean Sian. À la semaine prochaine.